racing or watch it.
La dispute. Ce soir, les séries. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Le Duo et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Jean-Richard Dufour. Réalisation signée Daniel Finot. Ce soir, Iris Bray, Olivier Joyard et Antoine Guillot sont autour de moi. C'est une première pour Olivier. Bienvenue à lui. À notre affiche, The Handmaid's Tale de Bruce Miller, Manon 20 ans de Jean-Xavier de Lestrade et Glow de Carly Menche, Liz Flahive. Est-ce qu'on dirait Flahive? Bon, on va se mettre d'accord là-dessus. Vers 21h30, Xavier Martinet, lui, on sait comment ça se prononce, nous entraînera dans le petit salon pour parler justement de l'arrêt des séries, la mort des séries. Et puis bien sûr, des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Diorama à découvrir jusqu'au 10 septembre au Palais de Tokyo à Paris. Et nous ouvrons cette émission avec la série Événements dont la diffusion débute aujourd'hui sur OCS Max, The Handmaid's Tale de Bruce Miller, adapté du roman de Margaret Atwood. Nous allons peu à peu comprendre ce qui se passe. Le peu à peu étant selon moi une des qualités de la série, on va y revenir pour savoir de quoi l'on va parler quand même. Quelques éléments dans un futur sans doute assez proche. Un groupe de fondamentalistes instauré aux États-Unis, une dictature théocratique basée sur l'Ancien Testament, une très grande partie des femmes ayant été rendues stériles à cause de la pollution. Pour lutter contre la très faible natalité, les femmes sont donc séparées en trois castes. Les épouses, qui règnent entre guillemets dans leur maison, mais il y a toujours un commandant. Les Martha, qui sont les femmes à tout faire. Et enfin les servantes, femmes fertiles, uniquement dédiée à la reproduction. Offred fait partie des servantes et est assignée à la maison des Waterford afin de leur donner un enfant. On peut rappeler quand même que Margaret Atwood a écrit ce roman en 1984 à Berlin, à une époque où le mur était encore bien debout.
I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Offred. I had another name.
Ladies, I have to let you go. It's the law now.
They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. You imagine the airports otherwise?
Run, run, run!
Oh, please, don't take her! No!
You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them.
There's an eye in your house.
We'll send you to the colonies. You'll be cleaning up toxic waste, and then you'll die.
Tonight is a celebration of Gilead and of what we have achieved.
We only wanted to make the world better.
Better?
Better never means better for everyone.
I want to keep on living for her.
Remember your scripture. Blessed are the meek.
And blessed are those who suffer for the cause of righteousness.
Iris Bray. Je pourrais vous dire « Blessed be the fruit » et vous me répondrez.
Moi, je vous répondrai « Praise be ».
Non, vous me répondrez « May the Lord open ». Sinon, vous serez punis.
C'est un lancement, là.
C'est ça.
D'accord, oui, oui. Ça va être un peu compliqué.
Under his eye.
Under his eye.
Il manque qui est le commandeur ici.
Déjà, le fait qu'on se soit approprié tout ce langage montre que cette série fonctionne étonnamment bien dans la création de ce monde, dans un futur proche qui nous paraît totalement réel et réaliste. C'est une série... pour moi, que je trouve absolument fascinante. On pourrait même parler d'une esthétique du sublime, puisqu'on est vraiment entre la terreur et le plaisir dans chaque épisode. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant. Et puis, il y a cette Elizabeth Moss, qui est donc le personnage principal au Fred, qui est donc dans cette maison du commandeur qui s'appelle Fred, qui est... Enfin, je sais pas, c'est un rôle extraordinaire. C'est une actrice qui habite ce rôle comme on l'a jamais vu. Et en même temps, il y a des... résonance de ce personnage-là avec d'autres rôles dans lesquels on a pu le voir dans Mad Men ou dans Top of the Lake. Et donc, et en même temps, c'est quelque chose de totalement différent. On a envie de comprendre son histoire, on a envie de la suivre, et surtout, il y a cette voix off. Et c'est la première fois que je trouve qu'une voix off fonctionne aussi bien, qui nous amène, en fait, qui fait le lien entre tous ces épisodes et entre l'horreur qu'elle subit tous les jours, puisque pour tomber enceinte, eh bien, elle va être violée à répétition. Et du coup, d'avoir cette voix off qui est là, qui quelque part nous protège et en même temps nous entraîne. Enfin, c'est une série fascinante.
Olivier Joyard, vous faites partie des très privilégiés à avoir eu accès à Elizabeth Moss. On a lu dans les arts occultés peut-être rencontre. Pareil qu'à Cannes, c'était la star absolue. Fabienne Pascaud me disait hier, en sortant de l'émission, que Télérama n'avait pas réussi à l'approcher. Donc, vous avez eu, c'était un exploit que vous avez accompli.
Ah, sans doute, oui. Non, c'est surtout que ça vient de loin, en fait. C'est-à-dire qu'Elizabeth Moss, elle vient à la Maison Blanche, ouais. Donc à la fin des années 90, début des années 2000, où elle était adolescente. On la voit grandir, c'est la fille du président. Et ensuite, on l'a vu encore à une autre étape de sa vie de jeune femme, dans Mad Men, où elle était Peggy Olson, qui commence comme secrétaire et devient à la fois une créative brillante dans l'agence de pub new-yorkaise où se passe la série, et je dirais le double de Don Draper, c'est-à-dire un personnage féminin extrêmement puissant, qui à la fois est capable de faire un déni de grossesse, d'abandonner un enfant et de devenir une... C'est des choses dont on... Je dis ça parce qu'en fait, ça fait écho avec cette série-là, dont moi, en fait, l'auteur de The Handmaid's Tale, pour moi, c'est Elizabeth Moss. C'est-à-dire que...
D'ailleurs, la productrice. Hein,
oui, et puis c'est elle qui allait chercher le roman. Alors, on sait qu'à Hollywood, c'est toujours un peu compliqué de dire qui est à l'origine de tel ou tel projet. J'imagine que plein de gens ont essayé d'adapter The Handmaid's Tale avant. Mais c'est pas un hasard. Donc, il y a eu ça. Il y a eu aussi dans sa carrière Top of the Lake. Et donc, on arrive à Handmaid's Tale et on voit c'est comme si c'était le bout d'une chaîne qui a une certaine cohérence, en fait, depuis longtemps. Et le principal atout qui est là, c'est de mettre en jeu son corps de manière permanente. Et c'est une série sur le corps qui part du corps des femmes et du corps d'Elizabeth Moss, et moi, ça me transporte complètement. C'est vraiment, on est à la fois dans une... quelque chose, comme disait Iris, à la fois la terreur et une forme de... presque de beauté ou d'une forme de libération, et elle arrive à jouer ça, c'est-à-dire de se mettre elle-même dans des angles de caméra, et je pense qu'elle l'a demandé, vraiment, où elle est laide, c'est-à-dire que des profils très très peu avantageux, une façon de se poser dans l'espace qui est lourde, qui est... elle fait peser son corps tout le temps, et dès qu'il se libère, en fait, ça produit un effet incroyable.
Antoine Guillot, premier regard sur cette série de Handmaid's Tale.
Alors, premier regard, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment sur la cohérence de l'univers qui est créé, sur sa richesse, sur ses us et coutumes qu'on nous montre de façon presque documentaire parfois. D'accord également sur la performance et l'investissement d'Elizabeth Moss. Après, j'ai quand même beaucoup de réserves sur la série, qui n'hésite pas sur les moyens de ce qui est devenu un peu presque un certain pompiérisme de la série contemporaine qui va de l'utilisation de tubes dont on va faire des reprises un peu décalées pour emporter à la fois pour toucher le spectateur dans un effet nostalgique et pour le surprendre, sur une utilisation un peu systématique du contre-jour qui est la signature esthétique de la série. Alors on nous dira que c'est pour évoquer les peintures d'intérieur de Vermeer ou aller savoir, pour nous mettre dans un temps là encore décalé, mais ça devient un tic qui doit être dans le cahier des charges de la série d'ailleurs, puisque quels que soient les réalisateurs, c'est toujours utilisé, l'utilisation du ralenti, des choses comme ça, et puis une utilisation du flashback qui vient partiellement du roman, mais qui là encore est une tarte à la crème de la série depuis Lost. Alors dans le roman, on a des flashbacks du personnage principal de June, même si on ne sait même pas si elle s'appelle vraiment vraiment June, qui va nous raconter, c'est une manière de nous raconter aussi comment cette dictature théocratique s'est installée. Un des rajouts qu'il y a sur la série, c'est de mettre des flashbacks pour les autres personnages, qui est une manière de les humaniser, en particulier pour la femme du commandant chez qui elle est. Personnage intéressant d'ailleurs tel qu'il est écrit, puisque c'était une femme qui se battait pour l'installation de ce régime, mais qui en devient
une intellectuelle, une oratrice
fervente, et qui avait même écrit un livre, alors que dans le monde tel qu'il est décrit, les femmes n'ont même pas le droit de lire. Si elles sont prises en train de lire, on leur coupe au minimum un doigt, et qui va en être une victime. De même, ils ont les personnages du commandant et de sa femme ont été rajeunis pour créer une tension sexuelle entre eux qui était absolument absente du roman. C'est évidemment un effet de la série. D'ailleurs, le livre avait déjà été adapté au départ par Volker Schlöndorff.
La servante écarlate. La servante,
voilà. Ça n'a pas très, très bien vieilli, d'ailleurs, quand on en revoit.
C'était déjà vieux les images, à la sortie. Hein.
Les images, sans doute.
Oh, déjà, oui, c'était très rare.
Déjà à l'époque. Mais alors, moi, ce qui me pose le plus question dans l'adaptation du roman, c'est la question de ce couple mixte que forme le personnage de June avec son précédent mari, comme on le voit dans les flashbacks, qui n'est jamais interrogé en tant que tel, c'est-à-dire et sa meilleure amie est noire, etc. Ce qui, au premier aspect, est, je trouve, très bien, c'est-à-dire qu'on puisse montrer un couple mixte sans que ce soit un sujet en soi ou l'amitié entre une femme blanche et une femme noire. Sauf que, et là encore, je reviens au roman, on est dans une caste qui sont pas seulement des néo-puritains, mais ce sont des suprémacistes blancs aussi. Et dans le roman, les noirs étaient soit renvoyés en Afrique, soit parqués dans une réserve. Et là, tout d'un coup, à force de vouloir afficher sa mixité raciale, même chez les commandants, la question ne se pose pas. Il y a des noirs, il y a des blancs, comme dans la société contemporaine. Tout d'un coup, c'est comme si la série, obnubilée qu'elle était d'interroger la question du féminisme et de la place de la femme dans la société américaine et occidentale en général, passer complètement de côté quelque chose qui est quand même très constitutif de ce qu'est la société américaine. Enfin, on en parlait récemment avec le film de Raoul Peck, d'après James Baldwin. Ce qui fait que la crédibilité même de cette société fasciste ou néo-puritaine ou théocratique, comme vous voulez, en Amérique, pour moi, est remise en question dans sa crédibilité même. Voilà. Alors ça part d'une bonne intention, certainement, que je salue, mais au résultat, ça crée un problème, je trouve, pour la crédibilité de l'univers.
Alors, sur la dernière réserve, on va peut-être en débattre. Pour les autres, moi, j'ai l'avis à peu près opposé au vôtre, Antoine, parce que pour parler de tic, pour parler de direction artistique, tout simplement, je crois qu'elle est très tenue. Alors certes, elle a un cahier des charges très précis, mais qui, moi, je trouve, fonctionne. Les courtes focales, le jeu sur les plans nets, flous, sur les lumières dont vous parliez, mais pour moi, c'est cohérent, c'est absolument tenu, de même que l'utilisation musicale. Alors, quand vous faites référence à ces tubes remaillés, il n'y a pas quand même tant que ça dans la série. Il y a des séries où c'est chaque épisode, on attend ce moment-là. Là, ça arrive 3 ou 4 fois, ou 2 ou 3 fois sur 10 épisodes.
Il y a aussi la musique de série elle-même qui en fait des tonnes.
Ah, moi, je l'aime beaucoup, cette série et ce son, parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment une musique originale qui travaille sur des infrabasses, sur quelque chose de très sourd et qui est lié. Pour moi, c'est une série qui est extrêmement anxiogène. C'est vraiment une série qui... ça m'arrive assez peu souvent, mais j'ai vraiment vu un épisode par un épisode parce qu'il fallait que je me remette à chaque fois de celui que je venais de voir. J'ai un peu accéléré sur la fin pour être prêt pour cette émission. Mais je trouve qu'il y a vraiment une très grande force anxiogène et que c'est un des mérites de cette réalisation. Et c'est lié vraiment à la direction artistique. Et contrairement à vous, moi, je trouve que justement cette construction entre aller-retour passé-présent, justement, fonctionne pour une fois. c'est un peu comme la voix off, assez admirablement, et que la façon dont sont, délivrées les informations par petites touches, pour moi, participe au contraire de la réussite aussi formelle de la série. Bon, ben voilà. Après, on peut remettre sur la table la question noire, disons ça comme ça, mais voilà, Olivier Joyard.
Moi, je pense que la voix off, on ne peut pas l'extraire de la. C'est, en fait, il y a trois niveaux de narration quasiment dans la série, c'est-à-dire un présent qui ressemble à une sorte de passé ultra poussiéreux et compliqué, c'est-à-dire que quand on est dans le présent, on est presque au Moyen-Âge. Enfin, il y a quelque chose d'être déjà d'un peu retors dans la façon dont c'est présenté. Ensuite, il y a ces flashbacks qui sont donc dans la vie de l'héroïne principalement. Effectivement, il y a quelques flashbacks qui concernent d'autres personnages, mais où on voit cette chose terrifiante de comment on glisse, en fait, d'une société ouverte à une société fermée pour aller vite. Hein. Ouais, le créateur a parlé de l'Iran, de l'Afghanistan, en disant on pensait à ça, on n'a rien inventé, évidemment, c'est l'Amérique, hein, donc ils ne peuvent prendre comme exemple que des pays comme ceux-là. Mais je pense qu'il voulait dire un exemple contemporain de cette idée que ça peut basculer du jour au lendemain. Et puis, il y a la voix off, qui est un troisième niveau de narration, qui est plus dans dans l'intériorité absolue du personnage et qui surtout n'a rien à voir avec ce qu'on voit d'elle dans la série. C'est-à-dire qu'il y a quand même vraiment un décalage absolu. Elle n'est même pas en commentaire vraiment sur ce qui est en train de se passer. C'est comme si elle nous est glissée dans un autre monde qui est le sien et celui de sa libération. Et ensuite, son corps, c'est comme s'il éprouvait les mots qu'elle venait de dire et d'essayer d'exprimer pour se transformer au fur et à mesure de la série. Vous parliez un peu de ça tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est quand même une série qui évolue. Et selon parle Antoine, c'était en cause, c'est une série étouffante sur l'étouffement. Et je peux comprendre qu'il y ait une sorte de... Comment dire, c'est presque redondant la façon dont est filmée la série, mais je crois qu'elle est finalement un peu plus subtile que ça. C'est-à-dire qu'elle se déploie vers quelque chose qui est à la fois dans une fascination un peu étrange qu'on peut avoir pour regarder quelqu'un qui est en train d'être mis en esclavage quand même. C'est-à-dire qu'on voit ça et on l'éprouve, et qui en même temps arrive à trouver sa liberté dans les interstices et dans... en fabriquant une autre fiction.
Mais je crois que c'est la forme est aussi forte, c'est que justement la question de la forme dans cette dictature est extrêmement importante. On n'a pas parlé des travailler sur les costumes, c'est-à-dire c'est quand même une signature picturale très très forte parce qu'ils y mettent les formes pour faire croire que tout ça est très normal, et donc du coup la série joue aussi esthétiquement de ces formes-là.
Iris. Et ce qui est fascinant dans les costumes que portent les servantes, c'est une longue robe rouge avec un capuchon blanc qui ressemble un peu à la collerette des chiens qui sont malades, vous voyez. Donc, mais il y a quelque chose de très fort en fait dans ça, puisque le rouge les unit toutes, et en même temps le fait qu'elles puissent pas tourner la tête vers la droite ou la gauche fait qu'elles sont coincées dans cet univers. Et moi, ce que je trouve absolument magnifique, c'est le moment où elles enlèvent en fait leur coiffe et elles peuvent se regarder. Et là, il se passe quelque chose de l'ordre de la sororité, de l'ordre de la prise de pouvoir, qui est, je trouve, visuellement extrêmement fort. Et pour revenir à la question raciale, même si je ne peux pas dévoiler ce qui se passe dans les épisodes à la fin avec sa meilleure amie, se retrouve dans une situation où elle n'est plus servante. Et elle dit à June, à Offred, qu'elle a eu le choix et qu'elle a choisi d'être Jezebel. Et rien que ce mot-là, dans l'univers américain et dans les stéréotypes raciaux associés aux femmes noires, est extrêmement fort. Donc je suis d'accord qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement exploité, ou en tout cas c'est présenté comme ça et on a l'impression que c'est peut-être pas totalement pensé jusqu'au bout. Mais j'ai eu l'impression, en tout cas juste avec ce mot-là, que c'était quelque chose quand même de présent à l'esprit.
Olivier Joyard, cette question-là, parce que vous n'êtes pas
revenu
dessus.
Question compliquée, parce que moi, je n'ai pas lu le roman. Et en général, je fais ça, sauf si je l'ai lu avant que la série ne commence, mais je ne suis pas très curieux de cette idée d'adapter, de savoir comment on transpose des mots en fiction, en images, pardon. Et je vois ce que veut dire Antoine. En même temps, il y a une forme de... une façon de faire ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire de dire que toutes les luttes sont finalement les mêmes. En tout cas, qu'elles se rejoignent et qu'elles s'enrichissent mutuellement. Et donc, moi, c'est un peu... Enfin, c'est comme ça que je pourrais le voir éventuellement. C'est-à-dire que ce qui n'est pas dit sur le personnage noir est finalement dit avec Offred d'une autre manière. Quoi. Et moi, et en même temps, je serais assez curieux de voir comment la série pourrait évoluer en exploitant un peu plus cette... parce qu'il se passe quand même quelque chose d'assez puissant avec ce personnage à la fin. qui rejoint une question qui est celle des migrants, de l'émigration d'une manière générale, qui met en scène vraiment de manière... C'est comme si c'était une réponse à ce qui s'est passé aux États-Unis récemment, et on ne peut pas vraiment en dévoiler plus, non, mais voilà. Il y a,
c'est
y a quelque chose d'assez...
de tout traiter à la fois aussi, parce que la question de l'orientation
mais je suis
sexuelle
d'accord que c'est une vraie
est traitée,
question.
Parce qu'il y, a des, y en a qui sont traîtres à leur genre, hein, pour reprendre cette terminologie. Un dernier mot, Antoine.
Non, ça va être d'autant plus intéressant de voir comment évolue la série que la première saison, en fait, finit le livre, y compris sur une fin ouverte qui était celle du livre. Donc maintenant, ils ont libre champ pour s'amuser, entre guillemets, au sein de cet univers. Non, mais d'autant que la dimension anxiogène dont vous parliez est présente, mais surtout, je dirais, dans les 3-4 premiers épisodes, on a ce sentiment d'enfermement où rien n'est possible, où il y a une accumulation.
Sans effet, vous êtes d'accord là-dessus, sans effet appuyé ou facile.
Non, mais
hein,
au moins, oui, c'est pas du torture porn.
Oui, oui, d'accord.
Et pourtant, il s'en passe des choses horribles.
Oui, enfin, horrible.
On est dans le mélo poussé jusqu'à l'excès de la cruauté sur ce qu'on peut faire subir à un personnage féminin, sauf que la série s'éloigne du livre dès le 4e, 5e épisode, c'est la possibilité de la résistance, la possibilité de combattre à l'intérieur de ce système extrêmement verrouillé. Donc après, le risque pour une deuxième saison, c'est que ça devienne la lutte armée de la résistance contre ce système. J'espère qu'ils partiront pas complètement de ça.
Bon, en tout cas, ils ont pas intérêt à nous l'arrêter celle-là, parce qu'on va parler d'arrêt des séries. The Handmaid's Tale de Bruce Miller, ça commence ce soir, en même temps que nous parlons sur OCS Max.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
À suivre dans la dispute, Manon Vintan et Glow. Tout d'abord, on va suivre Xavier Martinet dans le petit salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Alors, oui, hein. Eh oui. On ne veut pas que ce The Handmaid's Tale s'arrête, mais on pourra faire des pétitions, ça ne servira peut-être à rien.
Ah bah, on va
comment
voir.
S'arrêtent les séries, Xavier ?
On va voir si d'autres pétitions vont servir, puisque l'annonce, effectivement, début juin, de la vice-présidente de Netflix pour les contenus originaux, Cindy Holland, est tombée un peu comme une mauvaise réplique de série. Après 23 épisodes, 16 villes et 13 pays, l'histoire de ce groupe de Sense8 touche à sa fin. Alors, Sense8, le nom de cette série, Sense8, c'est une histoire de Sense8, justement, comme disent les Anglais, des créatures sursensibles, un peu comme dans Heroes, si vous voulez. Mais c'est une série particulière qui met en scène plus de diversité culturelle, sexuelle ou raciale que les autres. Il faut parler d'intersectionnalité, justement. C'était un récit d'émancipation contre les institutions, disait Guillaume Chodorge dans Les Inrocks, justement, début juin. Alors, plusieurs pétitions en ligne ont été lancées, dont une à plus de 500 000 signatures, quand même, sur change.org. Et cette série, c'est ça qui est intéressant, n'est pas la seule en ce moment de Netflix à être ainsi éliminée. D'après The Hollywood Reporter et le magazine Variety, Netflix fait le ménage dans ses séries les moins rentables. Cette déclaration tombe d'ailleurs une semaine après que Netflix a déjà sabré The Get Down, qui est une série, elle, sur l'histoire du hip-hop aux USA, située dans le Bronx. Selon le magazine Le Point, au début du mois, elle serait en fait 7 en tout, avec la série Marco Polo, Bloodline, Lilyhammer, Hemlock Grove et Longmire, donc 7 séries de Netflix, en fait 8 si on compte la toute dernière, vous me l'avez indiqué Arnaud, Girl Boss, lancée pourtant en avril dernier, cette série. Voilà, donc 8 arrêts. Ces séries ont sans doute des défauts, hein. Antoine en parlait, un style peut-être un peu pompier, trop de récupération ou de trucs de réalisation, voire des pans entiers, hein, d'esthétique déjà éprouvée. Je sais qu'il ne faut pas faire ça, mais en regardant simplement les trailers, on peut voir peut-être trop de Game of Thrones dans Marco Polo, dans Lilyhammer, cette série qui se passe en Norvège, la tentative de recycler un acteur phare des Sopranos, qui est l'excellent Steven Van Sant, dans une sorte de satire sur le décalage entre la Norvège et la mafia américaine. Il y a peut-être trop de frères Scott, hein, dans Hemlock Grove, trop de Narcos aussi dans The Get Down, trop de Heroes dans Sense8, justement. Mais ces séries ont quand même le mérite, je le disais, de présenter un monde plus varié que celui des séries habituelles, parce que les personnages sont noirs, homosexuels, amérindiens, gays ou lesbiens. En fait, parmi ces séries, elles sont 4, je crois, à mettre en scène ce qu'on pourrait appeler la diversité et les questions d'intégration. Concernant Sense8, Cindy Holland, donc toujours de Netflix, disait, succès. C'est tout ce que nous et les fans avions toujours rêvé. C'est tout au sujet de quoi nous avions toujours rêvé. Je traduis de l'anglais. C'est audacieux. C'était émotionnel, c'est époustouflant, c'est kick ass, dit-elle. And
vous traduisez pas ça.
Ça botte les fesses.
Ça botte les fesses. Allez.
Ça botte les fesses et puis c'est inoubliable. Pourtant, ça a été oublié. Girl Boss, cette série, elle était une série résolument féministe hein, sur une jeune amoureuse, on pourrait dire de la mode vintage, très entreprenante, qui crée sa start-up après un échec sur eBay. Et puis, il faut dire que Digget Dawn, par exemple, et Sense8 bénéficient aussi d'une certaine classe visuelle à une largesse de décor assez évidente, ne serait-ce que pour les décors historiques dans The Get Down ou la diversité des lieux très importante pour Sense8. Voilà ce qui fait que ces séries coûtaient assez cher, notamment Marco Polo, par exemple, une autre série historique en costume et décor, évidemment, à 9 millions de dollars l'épisode. Elle est dans le top 10 des séries les plus chères. Les critiques là pour cette série, c'est intéressant, ont été assez élogieuses, mais pas toutes, puisqu'en 2015, le magazine Variety parlait d'un soap-opéra plutôt mondain et confus, qui suit la vie de divers personnages sans approfondir plus ce qui les lie, même si le magazine reconnaît, elles ont apporté une incroyable contribution à notre culture, ces séries, mais une grande série coûteuse pour un public minuscule, c'est très compliqué, a conclu début juin le patron, un des patrons en tout cas de Netflix. Alors ce ne sont pas les plus chers, c'est vrai, en général on pourrait dire que les séries de la vieille époque, il y a 10 ans, coûtent cher en... il y a 10 ans, pardon, les séries historiques coûtent très cher en décor hein, Boardwalk Empire, Game of Thrones, Rome, ce sont les séries les plus chères. Et puis pour terminer, cet arrêt n'est peut-être pas étonnant non plus en regard de la profusion de séries de Netflix ces dernières années. Selon Fox News, elles seraient une trentaine en développement. Elles étaient une trentaine en développement fin 2016 et Netflix en prévoit au moins 20 nouvelles en 2017. On pourra en reparler. Alors, que fait Netflix? Les déclarations du PDG Reed Hastings laissent songeur. Notre ratio est trop élevé, dit-il. Ratio d'annulation de séries originales. Nous devons prendre plus de risques. Ce que nous essayons de faire, c'est de faire les mouvements les plus mesurés possibles vers nos limites, dit un autre dirigeant. Alors, sale temps pour la diversité, demandez-les un rock. Non, répond Alain Carazé. Mais Netflix pratique une politique qu'il appelle de la terre brûlée. Alors voici mes questions. Que fait Netflix, bien sûr? Et puis surtout, cela peut-il améliorer la qualité des séries?
Ah ben, c'est Antoine Guillot, vous l'avez dit, hein, qui est responsable de l'arrêt des séries. Hein. De toute façon, on a vu pour ça. On a vu ce qui s'est passé avec Sense8. Le lendemain, c'est arrêté.
J'étais pas dans l'émission, vous avez parlé de Sense8, oui.
Mais je pense alors, c'était la fausse d'Iris, ouais. Ouais. Vous aviez été très violente.
Très dure.
Ah oui, non, Antoine, il se remettait de canne, il ne peut pas tout faire non plus.
Bah, c'est peut-être juste pour ça qu'elles sont annulées, non?
Que fait Netflix? Bah, que fait Netflix?
Oh non, il regarde son... dire ça.
Bah, en tout cas, sur Sense8, on ne va pas dire que cette deuxième saison était assez convaincante pour qu'il y en ait une troisième. Après, c'est regrettable qu'on ne l'aurait pas annoncé, puisque du coup, il n'y avait pas de fin à cette deuxième saison et que du coup, les fans se laissent délaisser et que ça provoque ces pétitions. Mais si tout le monde était en train de regarder Sense8 et que c'était vraiment une série absolument géniale sur tous les plans, je pense que Netflix aurait... annuler les autres.
S'il y avait à l'antenne que des séries géniales à tout c'est point, il n'y aurait
moi,
pas grand chose sur les
cas.
Moi, j'aimais bien Sense8, y compris la deuxième saison. Et je l'ai dit ici, je l'aurais dit. Olivier.
Absolument, mais moi, je suis plus romantique qu'Iris, parce que je pense que même une
ça
série que
pas.
Peu de gens regardent.
Bon, elle l'est très peu en même temps, mais.
C'est vrai. Mais une série que peu de gens regardent n'est. Enfin, moi, j'ai envie qu'elle existe aussi. Hein, donc, Mais surtout, l'idée que ce que dit Ted Sarandos, je crois, c'est de. On va prendre des risques. Si les risques, c'est d'annuler Sense8 et The Get Down, qui sont des aventures sérielles un peu bizarres et étranges, qui sont à la limite, aux frontières du cinéma, parce que c'est des cinéastes qui font ces séries, les sœurs Wachowski d'un côté pour Sense8 et puis Baz Luhrmann pour The Get Down. Moi, c'est pas exactement comme ça que je vois le risque, donc que je perçois le risque. Après, c'est aussi normal que Netflix soit finalement une, j'ai envie de dire une chaîne comme une autre, c'est-à-dire que on avait l'impression que c'était la révolution des séries qui arrivait avec Netflix. Bon, tout le boulot, c'est HBO qui l'a fait il y a 20 ans en disant on va donner le pouvoir aux auteurs. Ça va être ça, les séries d'aujourd'hui. Ce que fait Netflix est finalement ni plus ni moins que la continuité de ça, avec un canal de diffusion qui est différent et qui induit une façon de raconter des histoires qui est un peu différente. Là, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils se contredisent un peu. C'est-à-dire qu'ils provoquent ça et finalement, ils coupent l'herbe sous le pied de séries qui respectent pas tellement la façon dont on doit raconter une histoire dans les séries de manière historique et classique. Donc, en fait, la rupture qu'ils ont essayé de provoquer, j'ai l'impression qu'elle leur fait à eux-mêmes un peu peur. Ouais. Et puis voilà, ils investissent 6 milliards de dollars, je crois, cette année en création originale de contenu. Donc c'est pas les 10 millions par épisode de Sense8 et de Get Down, c'est une décision politique qu'ils ont prise.
Oui, enfin, et puis il y a toujours cette opacité concernant Netflix dont on ne connaît pas les résultats commerciaux, les marges, les bénéfices éventuels, et qui, si effectivement on crée des séries par algorithme, on peut aussi les arrêter par algorithme. Effectivement, les notes données par les abonnés de Netflix, ils les regardent, hein, elles sont pas là pour rien, ces notes, même si maintenant c'est le pouce levé, le pouce en bas, c'est encore pire. C'est-à-dire, pouce en bas, vous savez que la série risque de s'arrêter, Antoine Guillot.
Oui, puis on ne sait pas non plus quel est l'audimat réel de ces séries. Eux le savent très bien, c'est-à-dire le nombre de personnes qui les regardent, mais on est dans un flou absolu. Mais ce qui fait qu'il y a une accélération...
C'est un flou pour nous, une opacité, oui, mais pas pour eux.
Pour eux, ils le savent très bien. Donc, est-ce que c'est une prise de décision idéologique ou est-ce que, très simplement, la série ne marche pas? Moi, je pense qu'ils sont suffisamment pragmatiques pour... effectivement prendre des risques, puisque ces deux saisons de Sense8, elles ont été produites tout de même. Après, s'ils estiment que ça ne rapporte pas assez, d'une certaine manière, en tout cas que l'abonné Netflix s'en détourne, ils vont sans doute prendre des risques sur d'autres choses. C'est une économie de prototype qui, pour moi, est au-delà de toute idéologie, enfin du point de vue de Netflix. Si une série extrêmement tordue, queer, tout à fait subversive, rencontre un large succès, non seulement elle va continuer, mais ils vont faire plein de petits bébés autour de cette série.
Oui, et puis le succès d'image aussi peut suffire pour faire une, deux, trois saisons. Je pense que Sense8 a amené beaucoup de gens vers Netflix. C'était peut-être dès le départ le projet aussi.
Après, on peut se demander aussi à quel point Netflix veut réorienter ses financements, non plus seulement vers des séries, mais vers des films extrêmement coûteux comme le formidable Okja de Bong Joon-ho.
Disponible demain sur Netflix.
Qu'on va voir demain et qui, en termes de campagne marketing aussi, va très au-delà de ce qu'ils ont fait, puisque au Festival de Cannes, ils étaient présents absolument partout. Ils se sont payés en plus une campagne qui n'a pas coûté grand-chose grâce au concours des exploitants français. Je me demande à quel point ils se réorientent aussi vers ça, quoi.
Xavier ?
Oui, je veux dire, mais des séries qui sont quasiment aussi coûteuses que des films, hein, 120 millions de dollars pour Marco Polo. Sur la question de ce que fait Netflix, en fait, vous disiez une économie de prototype, Antoine, on pourrait dire où se situe l'audace, en fait, de Netflix pour parler de sa qualité. C'est vous qui le disiez, Iris. C'est vrai qu'on a là affaire à des super productions avec des réalisateurs plutôt assez sûrs. On pourrait dire, alors, l'audace commerciale, ce serait de viser un public restreint. Mais effectivement, et je pense que vous l'avez bien souligné, ça pose la question de quel est le statut de ces séries pour Netflix, c'est qu'il s'agit d'un produit d'appel ou effectivement d'un produit qu'ils souhaitaient développer et dans lequel ils avaient réellement investi des intentions et puis une intention artistique.
Iris Brett.
Non, mais je reprends l'expression d'Antoine, hein, toutes ces séries bébé queer, je pense qu'elles ne seront pas sur Netflix. En fait, je pense que Netflix n'est pas la plateforme pour le queer. C'est beaucoup Amazon, je pense, hein, qui prend vraiment des risques. Et je vous fais une transition vers Glow, puisque je pense que voilà, on retourne quand même vers des séries qui sont très grand public et qui parfois ne vont pas jusqu'au bout de la promesse du début. Après, je ne sais pas si c'est Netflix ou les showrunners ou ce qui se passe, mais... notamment Marco Polo, c'était quand même vraiment très très mauvais. Enfin, si on peut pas dire le contraire, donc... voilà.
Olivier Joya.
Non, je suis d'accord sur Amazon. C'est clairement là que se joue aujourd'hui l'avant-garde des séries, d'une certaine façon. C'est un peu difficile d'employer ce terme quand on parle d'une industrie aussi puissante en dollars, mais et finalement, c'est presque des accidents qu'ils aient fait Sense8 et The Get Down. Peut-être que ce sera ça qu'on se dira dans quelques années, puisqu'ils ont continué House of Cards, qui n'a plus rien à dire depuis quelques saisons, enfin de mon point de vue en tout cas, et qui vraiment, ils continuent Orange is the New Black, qui est un tout petit peu en train de s'essouffler. Ouais, donc je pense que leur... et en même temps, ils devraient faire des séries qui ne sont regardées par personne. C'est-à-dire, s'il y a bien quelqu'un qui peut le faire, c'est eux, en fait. Les chiffres d'Audimat dont on dit mystérieusement qu'ils les connaissent, etc. Mais je ne pense pas que ça soit la première chose qu'ils regardent. Or, évidemment, c'est ce qu'ils ont dit, là. Ils ont dit une série qui coûte aussi cher, regardée par aussi peu de monde. Et surtout, on ne nous donne pas les chiffres, ce qui est quand même très, très étrange. Quoi. Je pense, oui.
Bon, le mystère reste quand même très entier. Ah oui, tiens, une petite annonce quand même aussi avant de poursuivre cette dispute série pour vous dire que ce jeudi 29 juin, France Culture propose une journée spéciale pour le livre. Plusieurs émissions auront lieu à la librairie de Paris, place de Clichy. Il y aura la grande table en direct à midi, le grain à moudre et ping-pong, 18h20, 20h. Mais aussi la dispute exceptionnellement enregistrée de 14h à 15h, ce jeudi, avec pas moins de 5 critiques littéraires. Pour cette dernière de la saison consacrée à la littérature, il y aura Raphaël Léris, Alexandra Schwarzbrod, Elisabeth Philippe, Grégoire Leménager et Philippe Chevillier. Donc on vous attend pour cet enregistrement jeudi à la librairie de Paris, place de Clichy. Pour la dispute, ce sera à 14h. Et malgré l'excellente transition que m'a fournie Iris Bray, on va quand même parler de Manon.
D'abord,
si ça vous ennuie pas, non, ma chère Iris. Cette mini-série, en fait, Jean-Guy de Lestrade n'aime pas qu'on parle de saison. Alors, il y a deux époques. Il y avait eu trois fois Manon, Fipa d'Or, il y a quelques années. Il y a Manon 20 temps, qui vient d'être diffusé sur Arte. Il y a un coffret qui réunit ces deux époques qui sont chacune constituées de trois épisodes de 52 minutes. Alors pour rappel, on découvrait dans la saison 1 Manon, donc à 15 ans, qui allait être envoyée en centre éducatif fermé, après avoir quand même donné un coup de couteau dans le ventre de sa mère, une mère terrifiante, Saint-Jean, l'amour fusionnel, et ne cessant d'humilier, de culpabiliser sa fille, bon, dans la saison 2, Manon a 20 ans donc, et se lance dans la vie adulte. Elle a toujours envie de devenir mécano, mais par défaut elle va accepter un job à l'accueil d'un garage.
Vidal, c'est vous? Vous êtes bien mécano? Vous êtes sûr?
Garage de l'Écluse, bonjour, Manon Vidal, à votre service.
Regarde, tu travailles, tu gagnes ta vie honnêtement, tu te débrouilles toute seule. Tu crois que ça me rend pas heureuse?
Tu as 20 ans. Mais crois-moi, la vie, ta vie, quand tu peux la choisir, ça peut être formidable.
Tu me crois que tu vas pas te mettre en colère? Je voudrais que tu me donnes le numéro de mon père.
Quoi? Qu'est-ce que t'as dit?
Pourquoi tu as le numéro de ce salopard?
J'ai le droit, c'est mon père, tu l'as ou tu l'as pas?
Oublie, Manon. Tu vas droit dans le mur avec ça. Alors oublie.
Les pièces détachées, quand elles sont nazes, vous les rangez où?
Pourquoi tu veux savoir?
Comme ça, je me demandais.
Moi, en fait, j'aime pas quand on traîne à l'atelier, Manon. On dirait qu'elle fouine.
Même si t'es mécano, t'es pas obligé tout le temps de tout réparer.
Les secrets dans une famille, c'est malsain.
Je suis sa fille. Manon. Je m'appelle Manon.
Résonance de guitare. Antoine Guillot, tiens, pour commencer sur cette Manon. Vous faites une drôle de tête, Antoine, quand je vous propose de prendre la parole.
Non, j'écoutais un peu le son des voix dedans, et ce qui est un peu une des choses qui me gêne, parce que je trouve ça, c'était déjà le cas pour trois fois Manon. Il y a quelque chose de très inégal dans la série, selon les personnages, selon comment ils sont écrits, selon comment ils sont développés. Alors il y a le personnage de Manon, effectivement, qui est très attachant, très bien. Porté par cette jeune comédienne Alba Gaya Bellucci, qui a à la fois une énergie, une fragilité, même. Alors, je trouve qu'elle est un peu mieux utilisée dans cette seconde époque que dans le premier, où elle était vraiment sur deux registres, soit l'abattement, soit la vocifération et la colère. Je n'ai pas dit hystérie.
C'est Iris Bray qui vous souffle le mot.
Mais voilà, donc le personnage est plus posé, plus intéressant aussi là-dessus. Après, je trouve, alors là, c'était vraiment le même problème dans Trois fois Manon, c'est comment est écrit l'entourage. Moi, j'ai quand même le sentiment avec ce film, d'abord, qu'il pourrait être raconté selon un format de film français assez classique sur 1h30, et que là, la matière est un peu délayée, étirée pour faire ces trois épisodes qui me semble pas se justifier complètement, et puis que le personnage a peu pris dans un scénario qui l'oblige à rencontrer certaines personnes, à expérimenter certaines choses de façon presque arbitraire et parfois un peu appuyée. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas dévoiler de quel type sont les rencontres amoureuses et les gens qui vont aider, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent aider Manon. Je suis toujours pas convaincu par la façon dont est écrite cette mère toxique et dévorante jouée par Marina Foïs, avec encore ce truc de scénario qui fait que le spectateur voit combien elle est toxique depuis le début, mais apparemment personne d'autre ne s'en rend compte. Manon a fini par s'en rendre compte, mais les personnages autour trouvent ça tout à fait normal qu'elle ait ce rapport avec sa fille, donc ça entraîne des bévues, des secrets dévoilés, etc. De manière, là encore, je trouve un peu arbitraire. Donc c'est un film qui est à la fois touchant...
Une série.
Oui, mais pour voilà, c'est quand même conçu comme une histoire. Est-ce que ça serait une série, il y aurait du développement et notamment des personnages secondaires, là, étant toujours focalisé sur Manon et les personnages secondaires restant tous des personnages secondaires, l'effet série ne joue pas. Alors qu'on est content de voir sur la longueur cette jeune fille tout à fait intéressante, mais ça échoue en tout cas dans mon cas à m'émouvoir et à me transporter véritablement.
Iris Bray.
Alors moi c'est le contraire. Moi ça m'émeut énormément. Par contre, je suis assez d'accord avec Antoine sur la question de la forme sérielle. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement trouvé avec ce 3x52, même si c'est quand même un réalisateur qui, à mon avis, s'interroge beaucoup sur la forme. C'est un des premiers déjà à faire une série documentaire qui s'appelait The Staircase, qui était un peu l'avant-garde de How to Make a Murderer. Mais donc, je trouve que voilà, là, pour moi, c'est une des faiblesses. Oui, c'est ce format Arte. Par contre, je trouve que le personnage de la mère est extrêmement bien développé et je trouve en tant que mère monstrueuse et la représentation de l'inceste platonique, on a rarement vu ça à la télévision française et je trouve ça assez fin puisque en fait les moments de dévoration, il y en a très peu qui sont faits devant les autres et juste donc là dans cette deuxième partie où Manon a 20 ans, elle a un petit ami, on peut le dire quand même, et ce petit ami va être confronté à la mère et ne comprend pas en fait la relation incestueuse qui se joue entre elles. Et je trouve que c'est assez bien montré puisque lui ne peut pas voir à quel point elle est dévoratrice. Et Manon, elle le sait et le spectateur le sait puisqu'on est tout le temps avec Manon. Et pour moi, c'est une série en fait qui réussit à représenter la colère intérieure. Et justement là, dans cette deuxième saison, on n'est plus dans les cris et dans l'hystérie et dans quelque chose qui sortait de Manon. Là, on est vraiment... elle, en tant que jeune femme, en tant qu'adulte, et une adulte qui a dû se construire sans repères familiaux, en tout cas avec une famille qui ne pouvait pas la protéger... Et moi, ça me bouleverse de voir cette jeune femme survivre, en fait, à l'inceste.
Olivier Joyard.
Juste pour revenir sur cette idée que la forme sérielle serait absente, je ne pense pas que ce soit le format qui soit en cause, parce qu'effectivement, c'est plutôt construit comme un long film. Mais en fait, l'effet sériel, il est quand même là. Mmh. C'est-à-dire qu'il est là par l'incarnation du temps qui passe et la simple existence de cette autre série avant, il y a 3 ans. Pour moi, c'est ça, en fait, c'est déjà un effet sériel en soi, même si c'est pas construit dans la narration, même s'il y a des personnages qui reviennent cette fois. Et après, moi, je suis presque plus intéressé par ce que dit Iris que par la série elle-même. Comme à la fois, je suis plus intéressé par... je trouve le personnage moins sage que la série. C'est-à-dire que la série l'encadre, effectivement, scénaristiquement, dans quelque chose d'assez, finalement... tracé. Il y a quelque chose d'assez facile dans son destin qui est si difficile en réalité. C'est-à-dire qu'elle a toujours des obstacles, mais elle bute contre rien longuement. Et c'est aussi... Alors, le problème, c'est que moi, quand je pense à ça, je pense à Rosetta. Et je pense à Rosetta qui était il y a 18 ans, je crois, aujourd'hui. Et ça me rappelle...
La série tout entière pense au cinéma des Frères Dardenne. C'est pas pour rien qu'il y ait Déborah François, à mon avis.
Ouais. Sans doute. Mais du coup, bon, c'est un peu difficile.
Y compris Bagaya Belugi qui était dans L'Enfant. Me semble-t-il.
Ah, c'est possible, ça je sais pas.
Il me semble qu'elle a commencé tout. Enfin, c'est une enfant de la balle, hein. Son père est comédien chez Mnouchkine, sa mère est costumière. Il me semble qu'elle a une apparition. Bah, vérifiez ça, tiens, Antoine. Ouais. Si j'ai dit une bêtise, autant le corriger tout de suite.
Mais du coup, voilà, à chaque fois que j'arrive devant un moment fort de la série, je me dis que c'est pas Rosetta. Je sais que c'est pas juste pour le créateur de penser ça, mais il y a quelque chose qui fait écho en moi comme un. Je sais pas, j'y crois pas tant que ça en fait, alors que je crois beaucoup à cette actrice et j'aime bien la multiplicité de ses compétences, c'est-à-dire qu'elle est à la fois capable de rester la mouette de Tchekhov, d'être une pro en de mécanique, de il y a vraiment elle est à la fois dans sa sexualité aussi, elle est multiple et diverse. Donc, c'est ce personnage, voilà, est presque plus fort que cette série, en fait.
Moi, je trouve que je suis plutôt du côté d'Iris, d'abord sur le personnage de la mère et sur Marina Foïs, qui une fois de plus montre quelle comédienne incroyable elle est. Enfin, je la trouve absolument terrifiante et pas du tout caricaturale ou quoi que ce soit. Et mais il me semble que moi, ce que Jean-Gabriel de Lestrade a. Que non pas les Dardennes, c'est quand même c'est confronté avec du réel dans beaucoup d'endroits du monde et que ça il amène quand même ça dans la fiction en se tenant à bonne distance de ces personnages. Il n'est pas du tout en surplomb, il n'est pas dans l'explicatif, il n'est pas dans le psychologisant, alors qu'évidemment il y aurait un boulevard pour faire des choses extrêmement extrêmement lourdes. Et moi je trouve que effectivement il a une place que je trouve toujours juste. dans son rapport aux autres. Alors, ce qui fait que c'est vrai que c'est focalisé sur Manon, et Manon, c'est dans le titre des deux époques, c'est pas pour rien, et que j'entends ce que dit Antoine sur les alentours qui pourraient être davantage écrits. Il faudrait peut-être alors que la série soit d'ailleurs plus longue. Allez, Arte, lâchez-vous, faites plus que trois fois pour Manon 30 ans d'ici là, mais enfin, il y a vraiment quelque chose à faire. Moi, j'ai envie de continuer à la voir, cette jeune femme, parce que je la trouve terriblement émouvante, en effet. Iris ouais.
Oui, ben, je pense que d'ailleurs, il a envie de faire elle à 30 ans, et j'ai presque l'impression qu'on revient à la discussion qu'on avait eue autour de Twin Peaks, de retrouver ses personnages plusieurs années après. Là, c'est émouvant parce que c'est l'adolescence et le début de l'âge adulte, donc c'est d'autres visages et d'avoir notamment la question de la sexualité qui arrive, qui je trouvais assez bien traité, donc on a hâte de l'avoir à 30 ans.
D'accord, et même si j'invente sa filmographie, hein, Antoine Guillaume,
vous vous êtes peut-être confondu avec Intouchable, dans laquelle elle était...
Pas les frères d'Ardenne, Intouchable non. Ah bon, je croyais, bon, mais écoutez. Pour l'heure, Manon 20 ans de Jean-Xavier de Lestrade, on peut le trouver en coffret DVD avec 3 fois Manon, c'est chez Arte Édition, c'est également disponible en VOD.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Bon, il va nous rester peu de temps pour nous battre. On va tous monter sur le ring pour cette série qui vient d'arriver il y a quelques jours sur Netflix. Y aura-t-il une saison 2? Ça, c'est un autre problème. GLOW, acronyme de Gorgeous Ladies of Wrestling, soit les beautés du catch, on va dire ça comme ça. Un programme télé qui a bel et bien existé aux États-Unis entre 86 et 90. Le titre dit un peu les choses. Des actrices, ou plus ou moins, des top modèles, ou plus ou moins, des cascadeuses, des athlètes, des danseuses qui s'affrontaient sur le ring, en tenue évidemment très colorée. Hein, on n'est pas dans les années 80 pour rien. L'émission s'est arrêtée, mais les créatrices de Orange is the New Black, donc Liz Flahive et Carly Mensch ont entrepris de raconter la création de cette émission à travers cette nouvelle série.
In this world, there are good guys and there are bad guys. And I will not be bullied into submission.
You are reading the man's part.
Oh, God.
Would you like to start over?
Yes, I would.
I will not be bullied into submission.
Sorry to interrupt, your wife is online too?
I'm interested in real parts.
Got $83 in my bank account, and I don't know if I can pay my gas bill.
Ruth, there's an audition. They're looking for unconventional women, whatever that means.
Hello, ladies. I'm Sam Sylvia, and this is GLOW.
Sorry, what's GLOW?
Gorgeous Ladies of Wrestling.
Are you hiring actors to play wrestlers, or are we the wrestlers?
Go! Yes.
Woo! Christ. Fucking actresses.
Okay, I want you to meet the star of GLOW, Debbie Egan.
Are you insane? Why is she here?
She's the alpha and you're the omega. Submit. She might kill you.
This is Sebastian Howard, our producer.
This is my first Hollywood party.
There are drugs in the fucking robot.
Thank you.
Wrestling is about type. You're a sexy party girl. You're an Arab.
You mean stereotype.
Yes, bingo, exactly. You're a big black girl.
The fuck you say?
Oh. Lady wrestlers, I get it. Women can do anything men do, blah, blah, blah.
Alors, est-ce qu'on monte sur le ring, Olivier Joyard, sur GLOW?
Oui, oui. Enfin, ouais. Moi, personnellement, je suis toujours d'accord pour monter sur le ring. Et c'est un peu dur de parler de cette série après avoir parlé de Handmaid's Tale, qui touche à des choses.
C'est dur de la regarder après avoir regardé Handmaid's Tale.
C'est ça.
Non, mais c'est vrai. Je parle d'expérience, de vécu.
C'est-à-dire que c'est une vision tellement, tellement, tellement à l'opposé d'un sujet qui pourrait, disons, qu'on pourrait résumer par être le féminin et sa représentation. Et en même temps, c'est pas forcément par là que je suis entré, moi, dans la série. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est le regard qu'elle a sur Hollywood. Et ça, c'est quand même un sous-genre, disons, dans l'histoire du cinéma, des ensorcelés de Minelli à aujourd'hui, pour les séries Entourage, par exemple, il y a quelques années. Donc ça donne des choses qui sont des chefs-d'œuvre et des moins des chefs-d'œuvre du côté d'Entourage. Donc c'est pas une vertu en soi. Mais j'aime beaucoup comment la série qui se passe. Donc l'original, le show se passait à Las Vegas. Ils ont transposé ça dans la San Fernando Valley, qui est de l'autre côté de Mulholland Drive, et qui est là où il y a tous les pilotes de séries qui sont tournés. Et un peu plus loin, c'est le porno. On est entre les deux. On est dans un motel tout pourri de la vallée. Et l'actrice principale, enfin la star de la série, qui s'appelle Ruth, qui est jouée par Alison Brie, qu'on a vu dans Mad Men notamment, elle a un poster de Catherine Hepburn au-dessus de son lit. Donc elle se rêve en actrice hollywoodienne classique. Je dirais, elle a même cet accent un peu limite anglais qu'avaient les grandes actrices classiques des années 40-50. Et la réalité, c'est qu'elle va être castée pour être dans un show de catch. Et donc, et j'aime bien, il y a aussi le réalisateur qui fait des séries B, voire Z, et qui se vit de manière extrêmement intense comme un créateur. Donc, toute cette partie-là, c'est là où je suis entré vraiment dans la série, et c'est ce qui m'a attaché émotionnellement. Après, il y a une autre partie de la série qui est celle de... Voilà, c'est de montrer un groupe de femmes. Donc, on pense évidemment à Orange is the New Black. En fait, la créatrice d'Orange is the New Black, Jenji Cohen, est productrice sur cette série. Et donc, c'est deux personnes qu'elle a mises au poste de showrunner, mais qui sont des collaboratrices de longue date. Mais on retrouve quand même cette idée d'un collectif féminin. Et donc, c'est ces femmes à qui on va demander... en fait, si tu veux survivre à Hollywood, tu vas devoir mettre un costume. Et ce costume, ça va être celui... de la plus grande caricature de toi-même que tu peux imaginer. C'est-à-dire, c'est assez bel épisode 3 où on explique aux femmes qu'il faut... À toi, tu es noire, tu seras la noire, tu seras celle qui vole les allocs. C'est un des trucs complètement fous. Tu es arabe, tu seras la terroriste. Et ça continue comme ça, jusqu'à la blonde américaine typique et qui doit gagner à la fin. Enfin, c'est les stéréotypes.
Oui, les essais caméra de la fin de l'épisode 3, c'est 3 minutes extraordinaires.
C'est ça. Et moi, je trouve que la série joue vraiment assez brillamment avec cette idée-là, puisqu'au bout d'un moment, ça donne du pouvoir aux femmes qui portent ces costumes.
Iris Bray.
Moi, c'est le genre de série que j'aurais dû adorer, et pourtant, ça ne fonctionne pas. Et je ne sais pas pourquoi, je suis vraiment tiraillée, puisque c'est comme s'il y avait une... Vous savez, des cases, et elles ont fait check dans toutes les cases que normalement j'adore. Donc, intersectionnalité check, on parle d'avortement, on parle de sororité, on parle même de faire l'amour quand on a ses règles. Enfin, je m'étais dit c'était pour moi, et puis en fait,
vous
non,
nous ferez la liste de vos cases pour,
juste
comme ça, pour information.
Bien sûr.
D'accord.
Et en fait, ça m'a fait penser à un article de Noël Birch qui s'appelait L'ambiguïté tendancielle du cinéma français, où il expliquait la capacité exceptionnelle au cinéma hollywoodien de rendre séduisant ce qu'il condamne en apparence. Et c'est vraiment ça, j'ai l'impression en fait que. On dit, on est une série féministe et regardez toutes les choses dont on parle, c'est génial. Et puis en fait, visuellement, je trouve qu'il y a une espèce de déception totale et presque... j'ai l'impression qu'on fait le contraire de ce qu'on est en train de raconter. Donc dans le pilote, puisque j'ai pas envie de tout dévoiler, mais on a vraiment cette idée qu'il faut plus de rôles pour les femmes et plus de rôles forts. Et puis deux minutes après, on voit Alison Brie seins nus. Je comprends pas en fait. Le cours d'aérobic est filmé à hauteur de fesses. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de dénoncer tout ce qui est le male gaze hollywoodien et puis après la caméra ne sait pas vraiment où se placer. Elle est nue parce qu'elle est en train de se changer dans les vestiaires, mais en même temps on voit pas sa copine à poil. Pourquoi est-ce qu'on montre ses seins parfaits à elle ? Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses comme ça, plein de petites incohérences où on a l'impression qu'elles ont voulu faire un manifeste féministe hyper fort et pour moi ça tombe totalement à plat.
Bien, voilà qui est clair, au moins Antoine Guillot.
Moi je trouve cette série absolument réjouissante.
Ah bah enfin
Après
en avoir cassé deux.
Et précisément, parce que moi ça m'a fait du bien, après avoir vu Handmaid's Tale, de m'aventurer là, parce que c'est une série qui fonctionne exactement comme ce qu'elle raconte. C'est-à-dire ça fonctionne comme le catch. Ce sont des archétypes, on voit, tout est très grossier, et pourtant il y a un pacte qui est, on y va et on y croit. Et c'est vraiment une série qui raconte comment est-ce qu'on obtient ce sentiment. Moi, je trouve ça formidable tout ce que ça raconte sur l'apprentissage des prises, sur le rapport de pouvoir entre le méchant qu'il a en fait pour mettre en valeur le gentil. C'est presque un discours sur la série qui s'affiche comme tel, mais on a ce plaisir-là en permanence. Et l'intérêt que je trouve, hormis en plus une direction artistique là, que je trouve absolument fascinante, parce qu'elle recrée tout ce qu'il y a de plus kitsch dans les années 80, tout en le montrant inscrit dans une continuité. Enfin, moi, j'ai le sentiment vraiment d'une époque. Et puis, les personnages sont très drôles. Ils sont tout à fait attachants. Les combats procurent un plaisir inouï, même jusqu'à la fin, où tout ce qu'on sait, quand on est dans l'idée du catch, on sait comment ça va se passer, mais il y a quand même une surprise qui elle-même est organisée, etc., qui, moi, me réjouit. Donc, je suis très, très impatient. En plus, ça ne dure que 26 minutes par épisode. Donc, ça fait...
30, 31, 32.
Ça dépend.
C'est la largesse de Netflix.
C'est
ça qui
est bien chez Netflix, c'est que c'est pas... on peut aller dans tous les sens. Et il y a un personnage, à un moment, qui ne comprend pas l'intérêt du catch qui vraiment est très réticente à aller dans cette aventure, qui va voir enfin pour la première fois un combat de catch et ah mais en fait c'est comme du soap opéra, et on a ce plaisir aussi du soap opéra, c'est-à-dire d'une série qui ne se pousse pas, qui ne se hausse pas du col et qui procure un plaisir assez primaire, simple mais très efficace.
Et du coup, vous parlez de direction artistique, certes. Alors c'est tout en lycra et en paillettes, c'est normal, c'est pour l'époque, mais c'est un peu aussi réalisé comme un soap opéra. Moi, je suis quand même très déçu par la forme pour le coup.
Oui, mais c'est modeste. Moi, j'aime bien des séries un peu modestes. Ça repose.
C'est pas modeste, c'est juste pas très bon au niveau de la réalisation. Moi, je suis plutôt client des dialogues. Enfin, je trouve que ça pétille pas mal. Les situations peuvent être souvent assez intéressantes. Si ça s'arrêtait à la fin de la saison 1, je ne suis pas sûr que je serais absolument bouleversé. Voyez, c'est ça que, alors que sur le papier, j'étais très partant aussi, mais je n'ai peut-être pas toutes les mêmes cases qu'Iris. Mais Olivier Joyard.
Moi, ce que je trouve beau quand même, je dirais beau parce que c'est l'intimité des personnages qu'on suit, donc c'est quand même quelque chose de très simple dans une série, c'est un peu la base, je dirais même, mais ça arrive dans un contexte complètement fou, et complètement démesuré et à la fois très cheap, c'est-à-dire ce que vous soulignez sur la réalisation, pour moi c'est effectivement une forme de modestie ou une forme de coller à son sujet, une manière
peut-être,
de coller à son
le voir
sujet
comme ça, de façon positive.
Et surtout d'être à la hauteur de ces personnages, c'est-à-dire de ne pas imaginer quelque chose de plus clinquant que ce qui est en train d'être filmé et d'imaginer surtout, moi ce dont je me souviens à la fin de la série, c'est pas des stéréotypes qu'on a voulu mettre en scène, c'est des personnages et comment, de la façon dont elles sont investies ces stéréotypes, dont elles ont investi leur costume au fond. C'est une question qui est aussi dans The Handmaid's Tale. À la fin, elles disent clairement que le costume leur a donné un pouvoir. Alors, c'est difficile de comparer les deux séries vraiment, parce qu'il y en a une qui est vraiment mineure par rapport à l'autre. Ça, je le reconnais tout à fait. Mais moi, je pense que c'est vraiment une série dont on a besoin.
Oui, non, mais je suis d'accord. Moi, je trouve ça plutôt très plaisant. C'est compliqué de le voir juste après Handmaid's Tale, dans mon cas. Mais je lui prends quand même un certain goût. J'adore le personnage de Sam, le réalisateur du show, qui est vraiment... qui est un mélange entre comment s'appelle-t-il l'acteur de Cassavetes dont vous allez me retrouver
Ben
le nom. Non, pas lui, mais...
Moscovitz, non, Mini Moscovitz.
Oui, bon, ça va revenir, bon. Lou Cassel, comme ça qu'il s'appelle Lou Cassel, voilà, ça va être ça. Il me semble que je dis un peu une bêtise. Cassel, mais c'est pas Lou.
Vous confondez avec Lou Castel.
Oui, c'est ça. En tout cas, bon, un dernier mot. Non, vous avez envie de dire d'une vacherie encore
Non, mais je vais dire un truc plutôt sympa pour The Handmaid's
Tale. Seymour, me sauve Daniel Finot dans le casque. Seymour Cassel, merci beaucoup, Daniel Finot.
Ah, oui. Non, mais The Handmaid's Tale a cette puissance de terminer sur une image de femme collective d'une puissance abyssale et malheureusement, on a besoin. Oui, mais le seul moment, en fait, de réjouir et de collectivité entre cette femme. Ces femmes, on a besoin d'une musique pour surligner l'émotion, puisqu'il n'y en a pas, puisque la série ne fonctionne pas toute seule.
Non, c'est dans les combats que qu'il se passe quelque chose entre elles et que c'est magnifique.
C'est magnifique, ce sera le mot de la fin concernant Glow de Carly Mensch et Liz Flahive, disponible sur Netflix. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, Justine Dibling nous a rejoint pour nous apprendre la réponse à la question d'hier. Mais d'abord la question, Justine.
Quel autre grand festival artistique a lieu à La Rochelle depuis 1984? Et la réponse était les Francofolies.
Et ce soir, on fait gagner des invitations pour l'exposition Diorama au Palais de Tokyo jusqu'au 10 septembre. La question?
Quel grand nom français a inventé les premiers dioramas, des dispositifs illusionnistes très à la mode au 19e siècle?
Votre réponse, avec vos coordonnées postales, envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter cette émission, vous abonner au podcast, un site sur lequel vous pouvez également nous écrire. Rendez-vous demain, 21h, pour une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie d'Elisabeth Franck-Dumas et Anaël Pija. Notre affiche, portrait de Cézanne au musée d'Orsay, David Hockney au centre Pompidou. On évoquera aussi plus rapidement Cholet, New York, hommage à François Morlaix, à la galerie Kamel Menour et Marion Verbaum qui expose à la galerie Jérôme Poggi. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.